Alors, on a beaucoup parlé de la dimension de la sagesse, cette dimension de l'ultime qui inclut le non-soi, ou en tout cas l'absence de saisie par rapport à un moi étriqué, la dimension de pouvoir comprendre que il est ni existant ni non existant. Et en même temps, il y a tout cet aspect, cette dimension qu'on explore aussi, qui est la dimension du relationnel, de la relation. L'établissement de la relation à soi, la relation à autrui, cet aspect tellement important de vie et de vécu au contact du monde. Et moins il y a de saisie, si on veut, au niveau d'une dimension qu'on pourrait nommer égocentrique ou d'un égo étriqué, plus cet aspect va naturellement être manifeste de façon assez spontanée. Donc, la dimension du soin et même de bienveillance altruiste peut être ressentie pour soi-même comme pour autrui. Donc j'aimerais ce soir commencer par lire un sutra. Les sutras sont les sermons qui nous viennent de l'enseignement du Bouddha. Si vous voulez le retrouver, il se nomme le Sedaka Sutta. Et puis je l'ai traduit. Je ne vais pas vous le transmettre en pali ou en sanskrit. Donc il dit ceci. Le Bouddha s'adressait aux moines. Forcément que ses disciples étaient et des moines, mais ça vaut pour tout type de pratiquant. Et il évoque une parabole. Il dit, il était une fois un acrobate dressé sur son poteau en bambou. Et il s'adressait à son assistante. Viens, Medakatalika, monte sur le poteau de bambou et mets-toi debout sur mes épaules. L'assistante acquiesce. D'accord, maître. Puis l'acrobate dit à son assistante, tu prendras soin de moi et je prendrai soin de toi. Ainsi, en prenant soin l'un de l'autre, en veillant l'un sur l'autre, nous montrerons notre numéro, recevrons un paiement et descendrons en toute sécurité du poteau de bambou. Et l'assistante dit alors à son maître, cela ne va pas le faire, maître. Bon, c'est ma traduction. Un peu moderne. Tu prends soin de toi-même et je prendrai soin de moi-même. Ainsi, chacun de nous s'occupant de soi-même, nous montrerons notre numéro, recevrons un paiement et descendrons en toute sécurité du poteau de bambou. Il me semble que c'est la bonne manière de faire. Et bien sûr, comme tout sutra, le Bouddha ajoute son commentaire. Et le commentaire du Bouddha est le suivant. Tout comme l'assistante Medakatalika dit à son maître, tout d'abord, je prendrai soin de moi-même, de même que vous pratiquez l'établissement d'une attention particulière. Vous devez également pratiquer l'établissement de la présence en disant, je prendrai soin d'autrui. Prenant soin de soi-même, on prend soin des autres. Prenant soin des autres, on prend soin de soi-même. Et comment prendre soin des autres en prenant soin de soi, dit le Bouddha, en pratiquant l'attention, en la développant, en la pratiquant constamment. Ce qui veut dire, et il y a une note là qui implique vraiment, il n'y a aucune situation qui est exclu ou qui sort de notre manifestement de notre pratique. Et comment prendre soin de soi en prenant soin des autres? Par la patience, en ne nuisant pas aux autres, en pratiquant la bonté et en étant concerné par autrui. Ainsi, en prenant soin de soi, on prend soin des autres. En prenant soin des autres, on prend soin de soi-même. C'est vraiment très explicite, très touchant aussi, et très immédiat. En tout cas pour moi, évident que ce n'est pas très métaphysique, mais qu'il y a là des qualités qu'on développe, cette qualité d'attention, hein, les quatre établissements de l'attention, c'est ce que veut dire l'attention particulière. Hein, et pouvoir vraiment être conscient de ce qui se passe en soi-même. Et puis ensuite, il y a cette dimension du lien autrui et il dit comment prendre soin des autres en étant patient. Et c'est évident que la patience est une des vertus. En ne nuisant pas aux autres, donc absence d'agressivité ou d'hostilité. En pratiquant la bonté, comme on a pu le faire. Et en étant concerné par autrui. Donc il y a là une dimension qui est très présente et de façon vraiment récurrente, si on potasse un petit peu les sutras, les sermons, on va vraiment pouvoir découvrir qu'il y a passablement d'enseignements de la part du Bouddha qui bien sûr vont dans le sens de comment... soutenir la sagesse, la lucidité, la dimension extrêmement claire de la clarté pour aller dans un sens de plus grande liberté. Et puis, il y a aussi tout cet aspect de qualité qu'on peut cultiver, qu'on peut nommer bonté altruiste, compassion, joie empathique, équanimité, patience, énormément de vertus qui sont là et qui peuvent être naturellement aussi cultivées. Maintenant, en pratiquant de la manière dont on le fait ici, c'est évident que le soin à soi va nous permettre aussi d'explorer la dimension de la patience et de toutes les autres qualités. Et ceci, dans l'enseignement, se nomme des protections. Protégé par la vertu, protégé par un comportement vertueux qui ne nuit pas, protégé par la sagesse, forcément qu'on va avoir une dimension de moins de confusion, plus de clarté. Et il est mentionné, en prenant soin de soi-même, c'est ceci qui va être le motif pour la dimension de l'éveil. Il nous dit comment nous protéger. Comment nous protéger, c'est très intéressant. Il dit se protéger de quoi? Principalement, ce n'est pas tant forcément qu'il y a des protections extérieures, des dangers. À l'époque du Bouddha, il y avait des tigres hein, quand il pratiquait. Il y avait toutes sortes d'animaux extrêmement dangereux. Vous imaginez 2600 ans en arrière. Hein, donc, c'est évident qu'il y avait... tout un constat. Donc, il y a des dangers extérieurs, comme on peut en avoir aujourd'hui aussi. Il y a aussi toutes les inondations, les incendies, tout ceci est mentionné. Mais il parle aussi de se protéger de notre propre esprit. Et que celui-ci peut être extrêmement dangereux si on n'est pas attentif. Si on n'en prend pas soin, il dit très clairement, celui-ci va s'égarer. S'il n'est pas entraîné, il peut... non seulement être distrait, mais même devenir dangereux. Et il dit ensuite, il n'y a pas de plus grand danger qu'un esprit non entraîné. Alors c'est parlant aujourd'hui, je crois. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le fait même qu'on peut voir comment c'est possible de... aller dans un sens d'hostilité, d'agressivité, et qu'au contraire, lorsque nous pouvons prendre soin de nous-mêmes, et celui-ci peut devenir un allié. Et il parle d'être un allié de son esprit. Donc, entrer en amitié. Entrer en amitié avec soi-même, c'est un terme... qui naturellement est très parlant, et surtout lorsqu'il y a de la souffrance. de pouvoir s'accompagner, et c'est toute la dimension de la compassion. Donc j'ai évoqué dans cette retraite, et surtout pour les personnes peut-être un tout petit peu nouvelles, il y a cette dimension de bienveillance qui est le souhait pour soi-même et pour autrui du bien, d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, donc des qualités qu'on va pouvoir développer. Et la compassion, c'est le souhait de pouvoir être en présence de la souffrance, face à la souffrance, sans être perdu dedans. Donc, pouvoir prendre soin de la dimension de la souffrance et les causes de la souffrance, et aller dans un sens, un cheminement qui va jusqu'à la fin de la souffrance. Donc, tout le cheminement de l'enseignement va dans ce sens. Donc, tout nous vient, si vous voulez, d'une mise en situation. Mise en situation ici ou ailleurs, dans notre vie. Mais c'est vraiment pas uniquement la réflexion, mais la mise en pratique. Donc, il y a vraiment des liens à faire quant à pouvoir recevoir tous ces enseignements, puis ensuite les pratiquer, et surtout lorsqu'il y a des perturbations mentales, il s'agit de les reconnaître pour ce qu'elles sont, dans le sens dont a parlé Charles, pour vraiment se soutenir et pas être contraint par le désir d'attachement, l'aversion ou la confusion. Maintenant, il y a vraiment cet aspect, ce point qu'il y a un cheminement. Graduellement, nous pouvons par moments nous sentir bloqués ou leurrés ou contraints, et qu'il ne s'agit pas ici d'être leurré, que bien sûr il va y avoir des obstacles sur notre chemin, mais en même temps, c'est exactement là qu'on va pouvoir se nourrir et s'aider dans le sens de la bienveillance. C'est cette dimension-là, cette qualité-là, qui va nous aider à pouvoir demeurer dans un certain équilibre, même si on se perd et que on se leurre et on se distrait, et que on peut avoir des moments où, bien sûr, la bienveillance n'est peut-être pas tout à fait accessible. Ça se peut. Mais on peut la retrouver. C'est vraiment comme des graines de semences, et puis tranquillement, au fil de la rencontre d'avec notre intériorité, on peut trouver qu'il y a des petites semences, et que ces petites pousses peuvent grandir. Donc, il y a aussi beaucoup l'exemple du jardin, cultiver un jardin à la manière agricole, et de pouvoir être tranquille dans le sens qu'on ne va pas voir immédiatement le fruit de nos semences, qui a un temps, qu'il y a vraiment là une progression et un temps nécessaire. D'où la patience. Et donc la patience est vraiment reliée à ça, cette dimension de pouvoir être en mesure de prendre soin et pas être immédiatement attaché à un résultat. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'on veut tout tout de suite. Et la culture de l'immédiateté, c'est quelque chose qui va peut-être à contre-courant, mais qui naturellement est nécessaire. Maintenant, il y a une autre façon de pouvoir, si on veut résumer, si on devait résumer un tout petit peu l'enseignement, la façon dont c'est exprimé au niveau de cet enseignement, il est mentionné en trois points. À nouveau, il y a là cet aspect du premier point, cultiver l'intention de ne commettre aucune action négative. Donc il s'agit bien d'une intention, mais de soutenir cette intention. Et ça, c'est cette dimension d'éthique, si on veut, ou de vertu. D'avoir bien sûr un lien entre notre pratique, peut-être en retraite, et puis celle du monde où il y a un comportement qui va naturellement dans le sens de ce qu'on ressent, du bien qu'on peut ressentir. Donc, cultiver l'intention de ne commettre aucune action négative. S'il y en a, se pardonner. De pouvoir regretter, mais il n'y a pas du tout cette notion de culpabilité. La notion de culpabilité est un type d'aversion envers soi-même qui nous fige et qui nous bloque. Donc, on peut faire le constat. Waouh, ça n'a pas été vraiment exactement ce que je voulais lui dire. Ou je ne l'ai pas dit de la manière qui peut être reçue. Et ça peut être en parole, bien sûr, en geste, en action, par le corps, mais aussi en pensée. Et donc, par moment, on peut faire le constat de ceci, même en rétrospectivement. Et puis, il y a toute cette façon de pouvoir prendre soin de ces constats. Et puis, au lieu de rester dans un leurre et bloqué, on peut regretter. Donc, il y a tout cet aspect et cette pratique qu'on peut progressivement intégrer tranquillement, qui est la pratique du regret, qui va dans le sens de pouvoir élargir la perspective et de comprendre que, à ce moment-là, on va essayer dans un avenir de ne pas recommencer ce qui n'a pas forcément été heureux pour soi-même et pour autrui. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, donc en trois points, deuxième point, c'est cultiver la bienveillance et la compassion. Donc cultiver les qualités qui vont nous aider. Et le troisième aspect, c'est développer son esprit, développer la sagesse, exactement de la manière dont on l'a fait ici, de façon intensive, du matin au soir, pour pouvoir y voir clair, se situer et puis cheminer en conscience. Vimalakirti, un très grand maître, dit « La sagesse sans compassion est un enfermement. » La compassion sans sagesse est un enfermement. Donc les deux sont nécessaires. Il y a vraiment une dimension du niveau, si on veut, au niveau ultime et le niveau relatif. Donc les deux sont nécessaires, complètement interreliés, indispensables à cultiver. Maintenant, il est dit inconditionnellement, pour toutes les situations de vie, pour toutes les situations de l'existence, et sans parti pris. Alors c'est là que c'est un peu plus difficile, sans parti pris, ça veut dire pas uniquement pour certaines personnes, en lien avec certaines personnes. Donc, il y a cette dimension beaucoup plus vaste qui est la dimension spirituelle, qui fait que cette capacité de développement peut aller à l'infini, impartiale, une ouverture illimitée. Le Dalai Lama parle beaucoup de l'interdépendance et... Il y a un petit texte là que j'aimerais lire. Il dit « La sagesse, c'est comprendre ce que c'est que l'interdépendance. Et grâce à la connaissance, nous appréhendons ce qu'est la nature réelle des choses. En gardant cela à l'esprit, en développant le chemin, il devient évident qu'éprouver amour et compassion envers autrui fait du bien non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Donc c'est une compréhension qui va naturellement nous permettre de sentir ce lien qui est tellement évident que ce que l'on fait à soi-même, on le fait à autrui. Ce que l'on fait à autrui, on le fait à soi-même. Et que c'est tout à fait naturel que ça ne peut pas se passer autrement. Il dit, à l'inverse, si nous nuisons aux autres, nous nuisons également à nous-mêmes. Donc dans ce cas, et dans tous les cas, nous sommes tous les deux gagnants ou perdants. Ce qui implique qu'il y a vraiment une vaste compréhension là, et profonde, et c'est exactement ce qui se situe de nos jours dans ce monde interconnecté. Et pour changer de perspective, il est important d'établir une pratique personnelle. Cette pratique qui vise à la transformation intérieure ne peut en aucun cas être imposée de l'extérieur. Elle ne peut venir que de nous-mêmes, de notre aspiration. Elle doit naître de notre compréhension, de la conscience que nous avons, tout simplement, des bienfaits d'une pratique personnelle. Et c'est à nous ensuite à décider de la mettre ou pas en application. Il est clair que comme pour tout métier, on doit acquérir des connaissances. Et là, il semble qu'on est prêt à passer du temps. Donc, pour notre pratique, il s'agit bien aussi d'une discipline personnelle. Réfléchissez un tout petit peu à ce qui est prioritaire, il dit. Passez du temps aussi à cultiver et à réaliser votre aspiration première. Donc là, je crois qu'on est vraiment, c'est magnifique, j'ai pu lire ça parce qu'on est tellement impliqué, tellement dans le don quelque part d'une qualité d'attention particulière. Vous vous rendez compte qu'en fin d'année, je veux dire, généralement, voilà, on va prendre du plaisir, on est tout intéressé à faire la fête et autres. Et là, il y a vraiment ici un aspect de renoncement par rapport à ça. Et en même temps, il se peut très bien qu'on sente les bienfaits d'une pratique personnelle et que l'un n'empêche pas l'autre, mais qu'on peut vraiment aussi se rendre compte qu'il y a un chemin et qu'on peut le réaliser. Donc cette interdépendance, c'est vraiment un des principes fondamentaux dans ces enseignements. Ce qu'on a mangé aujourd'hui, toute la journée, vous vous rendez compte la chaîne de conditions, d'où ça vient, de la terre, si on prend chacun des légumes, chacun des fruits, chacun des aliments. Et en plus, si bien préparé par des yogis, des méditants qui ont épluché les aliments, les légumes. Florence qui a mis son amour et sa bienveillance pour les préparer, ainsi que Michel. Il y a toute une chaîne d'interdépendance. Donc c'est évident que ça touche à cette dimension, que nous ne vivons pas de façon isolée. Et que toute chose, tout être n'existe qu'en interdépendance avec les autres. Donc on perçoit mieux là le lien. Et de ce fait, il semble qu'il y ait aussi cette extraordinaire possibilité, ce potentiel aussi du respect de la nature des choses, de notre propre nature en tant qu'être humain. Et puis de la nature qui est là pour nous. C'est vraiment, nous sommes nature. Donc il y a un bénéfice, si on veut, à pouvoir découvrir cet aspect d'interdépendance de mille manières. Dalai Lama dit, ce type d'attitude montre que nous ne sommes pas conscients lorsque nous ne comprenons pas ce qu'est le principe d'interdépendance. Aussi avec les phénomènes naturels. Donc cette terre, cette planète, combien on peut la soutenir, l'aider et en prendre soin. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un constat extrêmement important quant à notre situation mondiale. Et à nouveau, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser, mais de simplement élargir la perspective et chacun, chacune pouvoir prendre soin par le biais de notre comportement et peut-être modifier certaines attitudes. C'est vraiment cette dimension du colibri. Vous connaissez certainement hein, tous la petite histoire du colibri. Donc le Dalai Lama dit, s'il a une vision plus large, une perspective vaste, on dira de lui que c'est un sage. Il dit, c'est bien la compréhension de l'interdépendance associée à la sagesse et à la connaissance qui va pouvoir élargir notre esprit et inclure les autres, le monde, les phénomènes. Donc il y a un élargissement d'horizon. Et je crois que ceci vraiment va dans un sens souhaité, on souhaite tous avoir une vision plus large et plus spacieuse. Et naturellement, dans ce sens-là, c'est quelque part l'expression de moins de saisie. C'est vraiment l'expression de moins de contraction. C'est l'expression de plus de générosité. Et que tranquillement, cette attitude peut prendre forme pour nous selon ce qu'on souhaite, selon les engagements qu'on a envie de prendre. Et puis, c'est très réjouissant de savoir que à tout moment, un être peut changer. En prenant plus de soins et plus de bienveillance comme soutien. Il y a un exemple qui est très parlant. Je lisais ce récit il n'y a pas très longtemps, puis je me suis dit, tiens, je vais vous le partager. Certainement que vous connaissez l'histoire du roi Ashoka. Vous la connaissez? C'est une histoire particulièrement dramatique, au début en tout cas. Elle illustre cependant la conversion. C'est un roi très violent, Ashoka. Il avait décidé de conquérir autant de territoires que possible en Inde, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et ses propres paroles nous sont parvenues grâce aux pierres qu'il avait fait graver. Et il raconte à un moment donné, dans une situation particulière, tout à coup il s'arrête. Et il raconte son horreur face au carnage et aux 100 000 morts qui lui avaient permis de gagner une bataille. C'est pas rien. Il y en a des personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Alors qu'il se tenait debout, tout à coup il y eut un éclair de lumière, accablé de douleur, au milieu du champ de bataille. Il semble, et ça c'est forcément c'est une petite histoire peut-être, je ne sais pas, mais il y a un moine qui passe sur ce champ, extrêmement calme, extrêmement paisible, comme on l'est ici, et il lui demande comment ça se fait qu'il soit aussi paisible. Qu'est-ce qui a permis ça? Et qu'il est extrêmement touché par la présence. Et donc le moine lui dit... Eh bien, j'ai reçu des enseignements. Et puis, il lui demande de transmettre l'enseignement qu'il a reçu. Et à cause de son propre désespoir et aussi de la sérénité du moine, il a complètement renoncé, mais vraiment véritablement, à la conquête, renoncé à la violence et même à la peine de mort. Et il a gardé son armée uniquement pour la défense, donc comme armée défensive de son royaume. Et ensuite, il a réorienté tous ses efforts pour le développement social et spirituel de ses sujets. Donc, il y a vraiment des récits et c'est ses enfants, en fait, ses fils qui ont ensuite amené le bouddhisme au Sri Lanka et donc qui ont fait que quelque part, le bouddhisme s'est répandu du Sri Lanka, passé dans d'autres pays du sud-est asiatique. Donc, vous voyez que c'est extraordinaire et qu'on peut vraiment être inspiré d'un potentiel de changement à tout moment. Et même s'il y a énormément de désespoir parfois parmi nos dirigeants, parce que c'est clair que là, il c'était un empereur en fait. Donc, tout est possible. Hein? Et donc, nous ne savons pas quel enseignement Ashoka a reçu du moine, mais le Bouddha, dans beaucoup, beaucoup de sutras, parle des résultats de la violence et de la haine. Et il y a des vers qui sont là, qu'on connaît bien et qui font partie, bien sûr, de notre pratique. Et il y a aussi le Metta Sutra. Et certains de ces vers disent ceci: la haine n'est jamais apaisée par la haine. Par la non-haine seule, elle peut être apaisée. Ceci est une vérité éternelle. La victoire donne naissance à la haine. Le perdant dort tourmenté. Abandonnant aussi bien la victoire que la défaite, celui qui va en paix peut se réjouir. Tous tremblent face à la violence. Tous ont peur de la mort. Après avoir comparé les autres à vous-même, ne tuez pas ou n'amenez pas les autres à tuer. Si vous passiez en revue le monde entier, vous ne trouveriez personne qui vous soit plus cher que vous-même. Vous voyez combien cette dimension de bienveillance par rapport à soi est présente. C'est comme à lui-même que chacun est le plus cher, que ceux qui s'aiment ne fassent pas de mal à qui que ce soit. La personne qui jour et nuit se délecte dans la non-violence et qui est bienveillant envers les êtres est celle qui n'a pas de haine pour qui que ce soit. Donc ça, ce sont des vers hein, qu'on a beaucoup récités quand on pratique en Asie. Il y a naturellement des moments où on va avoir des récitations et même des chants qui vont nous permettre de puiser dans ces vers, et comme on peut à certains moments aussi réciter et chanter le Metta Sutra, pour vraiment nourrir cet esprit d'une bonne disposition. Et donc ceci, naturellement, c'est un entraînement. Ça revient à dire, c'est pas comme ça que ça arrive, qu'il y a vraiment toute une disposition et que ça peut engendrer une extraordinaire motivation quant à améliorer le monde, chacun pour soi-même et au contact d'autrui. Donc la bienveillance et la compassion sont une motivation encore et encore bien plus profonde et plus efficace que l'aversion. Un des grands maîtres dans ce domaine est naturellement le maître Thich Nhat Hanh. Il dit: il vous faut joindre la méditation à l'action. Il vous faut joindre la méditation à l'action, c'est-à-dire à l'engagement dans le monde. À quoi bon voir si on ne met pas en pratique la vision? La vision dans le sens de la vision pénétrante, de ce qui a été découvert. Donc vous voyez qu'il y a tout un dharma qui naturellement va dans le sens de l'approfondissement. Plus on peut être en lien avec soi, plus on comprend ses propres mécanismes, son propre fonctionnement, ses propres difficultés, ses saisies. Et naturellement, plus on est en constat de ceci, plus on est à même d'avoir des ressources aussi. Et c'est ces ressources qui vont nous aider à pouvoir être en lien avec le monde, et que ce dharma devienne aussi un dharma d'engagement. Dharma voulant dire la pratique ou la méditation. Donc c'est la dimension, si vous voulez, impersonnelle, pas uniquement pour soi, et universelle. Cet aspect de découverte qu'on peut répandre et qu'on laisse rayonner. Maintenant, tranquillement. Parce que quand on entend ceci, c'est intéressant, pas tant en Orient, mais en Occident, on associe ces mots à perfection. Et du coup, on est complètement contraint de dire « Ah, mais voilà, je ne suis pas assez bonne, je ne vais jamais y arriver, on se juge quand on n'y arrive pas. » Enfin, il y a toute une attitude, malheureusement, inamicale, on va dire, par rapport à quand on n'y arrive pas. Et ça fait totalement partie de la rencontre. Et ça, je crois que je peux en parler pour moi-même. Je suis vraiment le témoin parfait de ma propre personne pour dire combien c'est été difficile dans le sens de pouvoir entrer en amitié avec soi-même lorsque on est loin de bien faire, loin de l'engagement, loin de la bientraitance, que par moments il peut y avoir des attitudes qui vont exactement à l'inverse. Pour X raisons, je pense qu'il y a quand même un chemin, un conditionnement, des habitudes bien ancrées, des schémas, des choses qu'on a apprises aussi de notre entourage. Et donc, c'est beaucoup plus facile de se critiquer ou de se juger que par moment d'aller puiser à la bienveillance, à dire mais c'est ok, c'est entrer en amitié avec soi-même, en présence du jugement, de la critique. D'un mouvement d'hostilité et puis qu'on ressente la crispation du cœur et qu'on continue de pouvoir vraiment cheminer en découvrant que c'est possible de se rencontrer là aussi. Donc parfaitement imparfait. Et c'est joli comme le dit le patriarche Zen, il dit ceci, il dit vivre avec une haute réalisation sans aucune anxiété à propos de nos imperfections. Donc vivre avec une aspiration si vous voulez élever, mais sans aucune anxiété par rapport à nos imperfections. Donc là, on peut continuer de fleurir et de laisser germer une bonne attitude. Donc, c'est évident qu'il y a des moments où il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup d'impatience envers soi, envers autrui. Et on s'impose à ce moment-là par le biais de la volonté. Et à nouveau, la dimension, vraiment la qualité de la bienveillance comme elle est cultivée ici en tranquillité peut aider immensément par rapport au fleurissement dans notre vie intérieure. C'est simplement un mouvement, un moment d'exigence ou de jugement ou d'impatience. Donc telle une fleur qui a besoin d'eau et de lumière, on a besoin aussi de bienveillance et de compassion. Et c'est ainsi qu'on se protège. Et c'est ainsi qu'on pourra protéger les autres. Donc ça revient à ce sutra du début, ce serment de l'acrobate. En prenant soin de soi, on prend soin des autres. En prenant soin des autres, on prend soin de soi. Et qu'on peut cheminer. Le Dalai Lama dit ceci, dans notre monde contemporain, régi par une extrême interdépendance, les individus et les nations ne peuvent plus résoudre seuls la plupart de leurs problèmes. Nous pouvons reconnaître ceci. Nous avons besoin des uns des autres. Il nous faut par conséquent acquérir un sens universel de notre responsabilité. C'est notre responsabilité collective autant qu'individuelle de protéger et de nourrir la famille planétaire et de soutenir ses membres les plus faibles. Donc ça, c'est une haute exigence. Il n'y a aucun doute. Mais à nouveau, notre petite part, chacun sa part. Sinon, c'est évident qu'on est submergé et que la tâche est beaucoup trop vaste et trop grande pour une personne. Le fardeau est immense. Mais on peut aller vraiment dans le sens de la légèreté et de faire ce qu'on peut. C'est déjà immense de chacun, chacune faire ce qu'on peut pour aider. Et je vais terminer avec un petit texte de Pema Chödrön qui dit « Alors que nous glissons dans la brèche laissée par l'absence de désir égocentrique, nous faisons l'expérience parfois de la vulnérabilité, d'être exposés à l'anxiété et à la souffrance de ce monde. Le sentier sur lequel nous nous trouvons dans les moments où nous sommes centrés allie tout simplement l'esprit lucide et le cœur chaleureux. Il ne suffit pas de vouloir éprouver de la compassion envers autrui. Il faut aussi être vigilant face à l'invasion des pensées et des émotions qui menacent de s'introduire en nous et de briser cette résolution d'ouverture et de bienveillance. » C'est exactement ce que fait la qualité de la pleine conscience. Un cœur compatissant peut encore ressentir de la colère, de l'avidité, de la jalousie et d'autres émotions de ce genre. Mais il les accepte avec égalité d'humeur, avec tranquillité, simplement pour ce qu'elles sont. Puis, il cultive la force d'esprit de les laisser jaillir et disparaître sans s'y identifier ou agir à partir d'elles. Donc ça, c'est la dimension de la non-saisie. Vous êtes d'accord? Vous voyez les liens là? Par rapport à ce qui a pu être dit jusqu'ici? Donc vous vous rendez compte vraiment de la dimension tellement reliée et importante de pouvoir cheminer en faisant des liens, je l'espère pour vous. Donc il y a deux bonnes réponses, si on veut, face à notre disposition intérieure. L'une, c'est d'engendrer cette motivation, de pouvoir aller dans un sens bénéfique pour soi-même et pour le monde. Ce sera certes beaucoup plus, plus heureux. Et puis l'autre, c'est ce qu'on nomme Samvega. Et ce terme de Samvega, il signifie vraiment pouvoir avoir la dimension de la passion pour la pratique. C'est quelque part une dimension qui fait que ça relie à ce que j'ai dit l'autre soir, c'est qu'on a une intention, on met la pratique en langage, on découvre, et puis aussi on est en mesure de pouvoir sentir les bienfaits de la pratique. Et donc on se réjouit. On se réjouit vraiment, il y a toute cette dimension de pouvoir sentir le bienfait. Et donc le Bouddha, par rapport à Samvega et la passion pour la pratique, il dit « Ne soyez pas avare, pratiquez abondamment, soyez généreux dans votre pratique, pratiquez sans réserve, soyez enthousiaste et surtout ne perdez jamais l'espoir. » Et il nous transmet la confiance. Il dit vraiment, ayez confiance. Progressivement, les causes du mal-être ou de la souffrance qui provient de notre positionnement, la saisie, on peut dire, vont diminuer. Donc voilà, je vous laisse avec ces paroles. Et puis je crois que c'est vraiment important dans ce moment quand même de l'année où on sait très bien que voilà, c'est un peu comme tous les autres jours, mais il y a quand même un événement, c'est que demain on change d'année. Donc il y a de l'impermanence et on est tout à fait conscient et c'est souvent le moment dans notre sphère intérieure où on peut bien sûr sentir, réfléchir et sentir les bienfaits de ce qu'on a pu faire cette année, les engagements qu'on a envie aussi de prendre. Et donc moi, ce que j'aimerais juste dire là, pour nous tous, c'est que je crois qu'il est tellement important de pouvoir rester confiant. Et souvent, je me le dis, puis-je rester confiant dans ma capacité à pouvoir faire une différence de par mon attitude dans ce monde. Tout simplement. Et puis ensuite, toi, médite. Mais il y a vraiment cette disposition de pouvoir découvrir que cette intention porte des fruits. Et que la pratique porte des fruits et qu'ensuite on puisse profiter des fruits qu'on reçoit des uns des autres aussi, du soutien, de la communauté aussi, de la sangha.